Chapitre 2e. Un cavalier, enveloppé d'un grand manteau, suivait péniblement la route qui conduit de Prague au cercle de Kinitz. Son regard inquiet interrogeait sans cesse les sinuosités du chemin qui, coupé dans un saule montueux, tantôt s'élevait en arêtes perpendiculaires, tantôt s'abaissait brusquement. De loin en loin se pressaient des sapins au feuillage sombre. Le ciel semblait aussi vouloir répondre au caractère lugubre du site. Des nuages très abaissés et gris couraient rapidement vers la limite de l'horizon, poussés par un vent aux sifflements aigus. Tout à coup le voyageur s'arrêta. L'anxiété se peignit sur ses traits. C'est que toute trace de chemin venait de cesser et qu'une neige assez épaisse commençait à tomber. Comme l'étranger se demandait s'il ne devait pas renoncer à une entreprise téméraire et retourner sur ses pas, il aperçut à l'angle d'une roche un homme debout, immobile, et qui paraissait le considérer attentivement. Il tressaillit, autant de surprise que de satisfaction, et fit signe à cet homme de s'approcher. Celui-ci obéit, mais lentement et avec une sorte de dignité. Il était, ainsi que le voyageur, protégé par un vaste manteau d'une étoffe très commune, du reste, et sous les plis duquel passait le bout d'un gros bâton noueux. Un feutre gris, dévasté par les années, lui couvrait le visage. La longue barbe de cet homme, le feu de ses yeux noirs, la pâleur maladive de son teint, n'étaient pas de nature à rassurer l'étranger qui, cependant, dit d'un air très courtois. « Monsieur, j'ai grand besoin d'assistance, et si vous êtes du pays, comme je le présume, vous voudrez bien sans doute m'aider à retrouver mon chemin. » L'inconnu fit un signe de tête affirmatif. « Ah ah, vous n'êtes pas causeur, » reprit l'étranger. « Auriez-vous fait vœu de silence ?»« Non, » dit l'homme, « mais je ne parle jamais que par nécessité absolue. Je connais bien la contrée. Apprenez-moi où vous avez dessein de vous rendre. Je vais au château de Kinitz. Suis-je loin du but de ma course ?»« Vous l'aurez atteint bientôt. Suivez-moi. » Sans ajouter un mot de plus, l'inconnu marcha en avant d'un pas rapide. Au bout d'un quart d'heure, il s'arrêta et dit « Voyez !» Puis il se jeta dans un chemin de traverse où, caché par des buissons très serrés, il ne tarda point à disparaître. Le voyageur était à peine revenu de son étonnement lorsqu'il se trouva au pied des murs d'enceinte du château. Au bas d'un large escalier de pierre, avec rampe taillée à jour, il fut reçu par une espèce de majordome. C'était un de ses serviteurs d'autrefois, aux cheveux blancs, aux traits vénérables, ayant presque gagné quelques quartiers de noblesse dans la société de leur maître. Le vêtement de ce vieillard, sans être neuf et luxueux, était propre et sévère. Quant à la physionomie du majordome, elle portait un double caractère de bonté et de méfiance. Ludwig demanda à être introduit auprès du comte de Kinitz. « Il est absent, » répondit le majordome. « En voyage, peut-être ? Non, monsieur, mais selon son habitude, il se promène. » Par ce temps de bise, rien ne l'arrête. L'exercice seul le distrait de ses pensées pénibles. Des pensées pénibles? Il souffre donc? Le majordome inclina la tête. Du moins puis-je espérer de le voir aujourd'hui? Mais je l'ignore. Monsieur le comte n'aime pas les visites. Votre maître refuse-t-il donc l'hospitalité aux voyageurs? Oh, jamais, monsieur. L'hospitalité n'a été refuse à personne sous le toit des Kinitz. N'eussions-nous qu'un morceau de pain, nous le partagerions avec l'étranger. « C'est bien. Ayez la complaisance de m'amener jusqu'à une chambre où je puisse écrire au comte afin qu'il m'accorde audience. » Le vieillard conduisit Ludwig vers une partie assez reculée du château. Ouvrant alors la porte massive d'une chambre spacieuse, il dit « Entrez !» Et tandis que le voyageur se débarrassait de son manteau, il alluma dans la vaste cheminée un feu vif qui égaya un peu cette chambre triste et à peine meublée. Ludwig réchauffa ses doigts engourdis, puis traça rapidement au crayon un billet pour le comte, remit cette lettre au majordome et s'étendit ensuite près du feu, dans un fauteuil de cuir, afin de se délasser tout en attendant une réponse. Le bruit de la porte, qui s'était rouverte assez brusquement, tira le jeune homme de la méditation dans laquelle il était plongé. Il aperçut le promeneur qui lui avait servi de guide avant son arrivée au château. Cet étrange personnage n'avait rien perdu de sa physionomie farouche. Peut-être même l'expression dure de ses yeux était-elle devenue plus sombre encore. Il attacha sur le baron un regard d'une fixité extraordinaire en disant « Vous avez témoigné le désir de me voir, de me parler. Je suis le comte de Kinitz. »« Vous, monsieur ?» murmura Ludwig, d'une voix étouffée par l'étonnement. « Pourquoi ne vous êtes pas nommé lorsque vous m'avez rendu le service de m'indiquer mon chemin ?»« Je n'aime pas les nouveaux visages. J'ignorais d'ailleurs qui vous étiez, et je ne jette pas ainsi au premier venu ce nom que votre père m'a contesté. » Ces derniers mots furent prononcés avec une singulière amertume. « De grâce, monsieur le comte, dit Ludwig, ne m'imputez pas à tort la conduite de mon pauvre père. Si vous le blâmez intérieurement, votre conscience doit être à l'unisson de mes paroles. Affligé par la perte récente d'un père, je ne veux pas que celui qui n'est plus m'entende du sein d'un autre monde censurer la conduite qu'il a tenue dans celui-ci. « Que voulez-vous ? » dit vivement le comte. « Si vous ne venez pas faire amende honorable des torts d'un homme sans cœur qui a empoisonné mes dernières années. « Écoutez, monsieur. Sans me prononcer sur la triste querelle dont mon père et vous aviez saisi un tribunal, je reconnais que ce débat fut très regrettable. Éloigné de Prague depuis plusieurs années, j'ignorais complètement votre démêlée avec mon père. La lecture de quelques vieux papiers m'en a instruit. Jaloux de réparer envers vous les rigueurs de la justice, je suis parti. Me voici. Rien n'empêche que toute trace de fâcheuse discorde soit effacée. Mon père avait soutenu contre vous un procès plutôt pour défendre ce qu'il croyait son droit que pour revendiquer des biens dont il n'avait que faire. Étranger aux passions qui ont causé la lutte, je ne veux pas accepter le bénéfice du jugement. Reprenez vos biens et déchargez ainsi mon cœur d'un lourd fardeau. » Tandis que Ludwig prononçait ces paroles, la physionomie du comte avait passé par toutes les nuances de l'étonnement, de l'orgueil blessé, de la colère, pour reprendre enfin l'expression de la sévérité. Rendu méfiant par l'adversité, le vieillard n'avait sans doute pas compris la grandeur, la noble simplicité de la proposition qui lui était faite. Sous le sacrifice, il cherchait le calcul. Ce fut donc d'un accent singulièrement glacial qu'il répondit « Vous êtes infiniment trop bon, monsieur. Cette action honore votre cœur. Mais il ne dépend pas plus de moi de renoncer à mes ressentiments qu'il ne dépend de vous d'empêcher que le passé n'ait existé. Ce qu'il me fallait, c'était moins une restitution de biens auquel j'attache une importance secondaire qu'un désaveu éclatant de la conduite du baron. Ce désaveu, vous ne pouvez le prononcer. Ces biens, je ne puis les reprendre. Restons donc dans notre situation respective et séparons-nous sans haine, comme des gens qui s'estiment, mais entre lesquels certaines circonstances ont élevé des barrières éternelles. » Sans attendre la réplique du jeune homme, le comte salua et sortit. Il revint cependant sur ses pas pour dire « Ne vous considérez point comme obligé de quitter immédiatement cette maison. Tant qu'il vous plaira de l'habiter, vous pouvez vous y regarder comme chez vous. Franz vous donnera tout ce dont vous aurez besoin. » Ludwig n'avait pas encore trouvé un mot, que déjà le singulier vieillard avait disparu. Loin de songer à profiter des offres du comte, le jeune baron comprit la nécessité de s'éloigner du château. Il savait bien qu'à une demi-heure de marche, il se trouverait sur ses terres, parmi ses vassaux, chez lui enfin. Aussi, le cœur plein de dépit, s'ajusta-t-il aussitôt pour descendre, et il venait d'ouvrir la porte avec l'intention d'appeler Franz et de lui commander de faire seller son cheval, lorsqu'il aperçut à quelques pas le vieux majordome. « Vous voilà !» s'écria Ludwig. « Vous n'ignorez pas l'accueil que m'a fait votre maître. Je ne saurais rester un moment de plus sous son toit. Patience, patience. Peut-être ne serez-vous point fâché d'attendre jusqu'à demain matin ? Non, certes. Quoi ? Vous ne voudriez pas accorder à Mademoiselle Antonia l'entretien qu'elle vous demande ? À moi ? Murmura Ludwig avec émotion. Et qu'a-t-elle à me dire ? Je l'ignore, mais moi, qu'aurais-je à lui répondre de votre part ? Que je suis à ses ordres. Très bien. Quand la verrai-je ? Cette nuit, à 11 heures. Lorsque tout reposera dans le château, je viendrai vous prendre. » Jusqu'à l'heure annoncée par Franz, le jeune baron éprouva toutes les émotions que peut inspirer la curiosité. Son cœur n'était pas atteint, mais son esprit, travaillé par des pensées actives, cherchait à se rendre compte des motifs qui avaient pu déterminer la démarche d'Antonia. La noble jeune fille voulait-elle amener entre les deux maisons une réconciliation complète ? Avait-elle trouvé moyen de désarmer le ressentiment du comte de Kinitz ? Et puis, cette cousine avec laquelle il allait faire si mystérieusement connaissance, réaliserait-elle à ses yeux l'idéal que lui, jeune homme enthousiaste, il avait rêvé ? Fidèle à sa promesse, Franz parut. Après avoir recommandé à Ludwig de marcher légèrement, il le précéda le long d'un sinueux corridor et ouvrit enfin une petite porte. Le baron pénétra d'un pas chancelant dans une vaste salle aux grands vitraux peints, à travers lesquels la lune projetait une clarté douce et blanche. Il avait fait à peine quelques pas lorsqu'il aperçut près d'une fenêtre une sorte d'apparition diaphane. Aussitôt, une voix fraîche lui adressa ces paroles. « Vous avez été exact, mon cousin, je vous en remercie. » Ces mots, si souvent insignifiants, « mon cousin », prononcés par une personne encore inconnue, allèrent droit au cœur de Ludwig. Il hésita un moment, puis il répondit « Mademoiselle, je suis trop heureux d'avoir l'occasion de vous voir. »« Me voir ?» répéta le fantôme, avec un sourire qui indiqua l'inflexion de sa voix. « Non pas, mon cousin. Nous devons rester étrangers l'un à l'autre. Il n'est donc pas nécessaire que vous connaissiez mes traits. » « En vérité, reprit Ludwig avec un léger accent d'amertume, vous exprimez là, mademoiselle, une étrange volonté. Parce que nos relations doivent être à jamais interrompues, vous avez voulu me priver du plaisir de contempler vos traits charmants, images de la vertu, de la pureté. Oh, mon cousin, pourquoi tenir le langage de la flatterie? Puisque je vous suis inconnu, je ne saurais prendre au sérieux des éloges qui vous embarrasseraient peut-être si un flambeau éclairait soudain cette salle. Permettez-moi, ma cousine, de ne pas vous croire. Tenez, dit-elle après un moment de réflexion, parlons de choses plus sérieuses. J'ai voulu vous témoigner toute mon estime. Vous êtes venu franchement, loyalement, proposer à mon père l'abandon des droits que la justice vous a conférés. Droits que je repousse, droits injustes, odieux. Appelez-les comme il vous plaira. Ils n'en sont pas moins les vôtres, et vous pouviez en user sans ménagement. Au contraire, vous avez désiré rendre à mon père ce qu'un arrêt lui a enlevé. C'est bien, monsieur, et je suis heureuse de vous en remercier. Vous acceptez donc ma proposition ? S'écria le baron avec joie. Il ne m'est point permis d'avoir une opinion, mais je puis du moins avoir de la reconnaissance. Maintenant, mon cousin, recevez mon adieu et mes vœux sincères pour votre bonheur. Le bonheur ? Répéta mélancoliquement le jeune baron. « Depuis longtemps, je n'y crois plus. »« Déjà ? Et vous, ma cousine, y croyez-vous ? » ?»« J'y crois peu, mais j'ai la foi, et c'est assez pour me consoler. Pourquoi me plaindrais-je ? Si la mélancolie de ce séjour a jeté sur mes idées habituelles une teinte un peu sombre, ce n'est qu'une chose naturelle et dont il ne faut pas s'étonner. Mais cet entretien a duré trop longtemps. Adieu, adieu, mon cousin. »« Mademoiselle ?» « Antonia, un mot encore, je... » Sans l'écouter davantage, la jeune fille se glissa légèrement, comme une ombre, hors de la salle. Un moment après, tandis que Ludwig, tout étourdi et sous l'empire d'une sorte d'hallucination, cherchait encore auprès de lui la vision envolée, une voix, à demi grondeuse, à demi railleuse, fit entendre ces paroles. « Eh bien, monsieur le baron, vous restez là ? Venez, venez, la conversation est finie. » Il ne serait pas bon que monsieur le comte vous rencontrât ici. »